Nous fêtons aujourd'hui Saint-Hildegarde, moniale allemande, et d'une certaine manière, la première lecture nous parle un peu d'elle, puisque il y est question de la diversité des dons dans l'Église, hier et aujourd'hui. Je crois que ce serait une idée curieuse de penser que ce que Paul dit concerne le passé. Donc il évoque le corps qu'est l'Église, avec plusieurs membres. Et dans chacun de ses membres, il y a des dons particuliers. Alors il hiérarchise ces dons. D'abord les apôtres, hein, ceux qui ont reçu du Seigneur la bonne nouvelle et qui l'ont transmise. Les apôtres au sens large, vous savez que Marie-Madeleine est appelée apôtre des apôtres, donc ce ne sont pas uniquement les 12 apôtres, Matthias remplaçant Judas, ce sont aussi ces femmes qui ont annoncé l'évangile, d'une manière ou d'une autre, et qui continuent du reste de le faire. Les prophètes, alors là, ben, on parle déjà de... C'est marrant de voir que les prophètes arrivent jusqu'après les apôtres, hein. Le prophète en hébreu, c'est celui qui prend soin. Et c'est aussi celui qui annonce une parole, mais c'est celui qui prend soin, le prophète. Le consolateur, exactement, le prophète. Et alors Hildegarde, elle a eu des visions sur la fin dernière, mais on ne sait pas très bien s'il y a une limite dans les dons qu'elle a reçus. Elle était écrivain, compositeur, philosophe, naturopathe, mystique. Voilà, c'est important de voir ça parce que, au fond, cette femme nous montre que, bien souvent, les dons sont là, mais les circonstances ne nous permettent pas forcément de les exercer. Et c'est peut-être ce que je voudrais retenir de cet évangile, de cette première lecture d'abord. C'est comme je le disais que ces dons sont, que cette hiérarchie n'est pas d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toujours des apôtres, il y a toujours des prophètes, il y a des gens chargés d'enseigner, des gens qui font des miracles, qui guérissent, qui assistent. Et tout ça, ça existe. Et tout le monde n'a pas les mêmes dons. Tout le monde n'a pas le don de guérir. Tout le monde n'a pas le don de prophétiser, même si nous sommes prophètes par notre baptême. Ce qui signifie que par notre vie, nous avons quelque chose à annoncer. Qu'on ne l'oublie pas. Et ces dons peuvent être cachés. Ils peuvent être couverts. Ils peuvent avoir été combattus par notre milieu familial, par notre éducation. Par l'enseignement que nous avons reçu, par le contexte, mais ils sont là et ils demandent juste à pousser. Et parfois nous sommes en contradiction parce que ces dons ne correspondent pas à l'idée que nous avons de notre propre vie, de ce que nous devrions faire. C'est pas à moi qui revient de faire ceci. Oui, et si tu as le don, et si Dieu t'en a donné le don, qu'est-ce que tu en fais? Et quand tu arriveras et qu'il te dira « Alors toi, tu as fait quoi ?»« Ben moi, je l'ai mis dans la terre parce que tu comprends, je voulais pas, je savais que tu es exigeant. Alors tiens, voilà, tiens, prends ton don et puis fiche-moi la paix. Ouais, » est-ce que c'est ça que nous voulons entendre? Ou bien est-ce que nous pouvons dire au Seigneur bah, « Ben Seigneur, j'ai vraiment cherché, j'ai essayé de faire ça et s'entendre dire par le Seigneur bah, « Ben, tu vois, ce que tu as fait, c'est ce que je t'ai donné. C'est ça. Alors, il y a un risque, hein, on peut se tromper. Mais je crois que si on est de bonne foi, de bon cœur, on ne se trompe pas. Dieu ne le permet pas. Et même si on se trompe un peu, Dieu tire des fruits de ce que nous faisons. Voilà, ça me paraît très important d'avoir ça à l'esprit. Encore une fois, hein. Le cadre, la norme, peuvent, attention, je ne suis pas en train de dire qu'un cadre, c'est pas bien, mais ça peut parfois restreindre des dons que nous aurions. parce que nous ne voyons pas comment ça pourrait s'épanouir dans tel cadre. Bah, pouvez-vous citer une seule apparition, une seule demande de la Vierge Marie qui ait été dans le cadre, quoi. Quand elle commence à arriver voir Bernadette et qu'elle lui dit il faut construire une basilique, franchement, c'est pas dans le cadre, quoi. Il n'y a pas grand-chose qui soit dans le cadre. Est-ce que la résurrection est dans le cadre? Est-ce que la conception immaculée de la Vierge Marie est dans le cadre? Voilà, Dieu fait des choses qui sont un peu hors cadre. Et c'est important que nous ayons ça à l'esprit et que nous puissions entendre ce que Dieu nous donne. Alors peut-être le don que nous avons ne correspond pas à ce qu'on appelle aujourd'hui les classes sociales. Voilà. Quand on est, je sais pas quoi, qu'on se pense très haut, les restos du cœur, ça fait un peu vulgaire, quoi. Ouais. Enfin, quand tu arriveras au ciel, je sais pas ce que tu vas dire, quoi. Parce que les pauvres, c'est quand même la richesse de l'Église, hein. C'est ce qu'a dit Saint Laurent quand on lui a demandé de livrer les trésors de l'Église. Donc voilà, ayons conscience que ces dons sont parfois cachés, je le redis, et qu'il faut demander au Seigneur de nous les faire voir et d'avoir l'humilité de les recevoir, de les reconnaître, de les vivre si possible. Et alors dans l'Évangile, nous avons Jésus qui arrive dans la ville de Naïn. Dans nos Évangiles, il y a écrit Naïm avec un me, mais en fait c'est un ne. Naïn, Nouna en syriaque, ça veut dire le poisson. Je vais y revenir. Et Jésus, il vient pas, si je puis dire, il n'est pas apôtre là. Il est en deuxième position. Il est guérisseur, mais aussi prophète. Il est aussi le Fils. Il est aussi, voilà. Et en fait, c'est bouleversant cette scène. Parce que donc, Nouna, ça veut dire le poisson. Donc, Jésus vient dans la ville du poisson. Vous savez peut-être qu'il y a un acronyme qui est Ictus, qui veut dire poisson. Et que Ictus, ça veut dire Jésus Christus, Christos, Théou, Ion, Soter. Jésus-Christ, Fils du Dieu, Sauveur. Ictus. Et donc, Jésus voit le drame de la mort, de sa propre mort. Il voit ce qui va se passer, il voit qu'une foule immense suit ce cercueil, alors que lui, il y aura deux ou trois femmes qui suivront discrètement, tous les apôtres auront foutu le camp, alors que là, il a tous les apôtres derrière lui, dit le texte. Et une foule immense, et lui sera abandonné. Et là, il est bouleversé par ce qu'il voit. Alors évidemment, nous ne savons pas ce que Jésus a vu dans son âme. Nous voyons juste ce que le texte nous dit. Il fut saisi de pitié pour elle. C'est pas la foule, c'est pas les apôtres. C'est pas la foi de cette femme. C'est assez rare que Jésus fasse des guérisons en dehors de la foi. Enfin, je veux dire pour un autre motif que la foi. Il fait une guérison parce qu'il a pitié de cette femme. Il a eu pitié de la foule et il a multiplié les pains avec les poissons, partant de pas grand-chose. Et là, il part de rien. Il n'y a rien. Il y a la mort. Et lui, il est la vie. Et la vie prend pitié. C'est peut-être à ça qu'on peut reconnaître la vie parfois. Cette capacité de prendre pitié, de s'émouvoir, d'avoir une sensibilité et de ne pas rester figé comme des ânes. Et Jésus est pris de pitié et il s'avance, il touche la civière. Et les porteurs s'arrêtent. C'est une scène bouleversante, hein. Il faudrait qu'elle soit rendue dans le cinéma encore, celle-là. Et alors à ce moment-là, il dit au jeune homme, Talia, cum. Talia, c'est le masculin de Talita en syriaque. Jeune homme, lève-toi. Alors évidemment, dans notre traduction, on a en grec, on a je te l'ordonne, parce qu'en fait c'est un impératif, mais Jésus dit pas je te l'ordonne. Il dit Talia, cum. Jeune homme, debout. Il y a la le peu de mots, c'est comme yoyor, va yoyor, soit lumière, fut lumière. C'est des phrases nominales, enfin pas yoyor parce que c'est le verbe être, mais il y a très peu de choses, quoi. C'est juste debout. Cet ordre du Seigneur, cette puissance de Dieu qui donne un ordre, et cet ordre a un effet instantané. Et le mort se redresse. Et là, on aimerait bien savoir ce qu'il a dit, ce qu'il a pensé, ce qui s'est passé. On a une scène un peu similaire dans The Chosen avec la résurrection de Lazare, qui est assez bien faite, je trouve. Parce qu'on voit ce Lazare qui dit, mais il m'est arrivé quoi? J'étais où? C'est très beau. Bon, c'est une mise en scène, hein. Il y en aurait d'autres, c'est peut-être pas ça. C'est pas ce qui s'est passé, puisque. Mais bon, c'est une mise en scène. Ben là, c'est pareil. Voyez, alors, ça prophétise évidemment la résurrection de Jésus. Sauf que c'est pas lui qui dira la parole. C'est l'Esprit Saint, dit la préface, hein, que tu as ressuscité par l'Esprit Saint, qui relève Jésus. L'humilité de Jésus est telle qu'il ne se relève pas lui-même. Il est relevé. Vous voyez, ça nous parle de la Trinité où chacun se donne entièrement à l'autre dans la Trinité, le Père au Fils, le Fils au Père dans le mystère de l'Esprit. Chacun donne tout sauf le fait d'être Père, d'être Fils, d'être Esprit. Ça les individualise, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, et là, ben là c'est Jésus qui ressuscite. C'est lui qui a ce pouvoir par l'Esprit Saint de ressusciter cet homme. De le remettre dans la vie. Voilà, c'est assez. C'est quand même bouleversant ce drame de la mort. Et en fait, Jésus, donc, il stoppe la mort, il détruit la séparation et il restaure le corps. Il restaure le corps, ce qui nous parle aussi de la première lecture, où c'est lui qui vient restaurer les morts. Alors nous aussi, nous sommes morts quand nous commettons des péchés. On parle de péché mortel, donc le péché mortel, c'est un péché qui nous coupe de la grâce divine. Bon, pour qu'il y ait un péché mortel, il faut des conditions qui sont peut-être pas très souvent réunies. Il faut une parfaite connaissance de ce qu'on a fait, une volonté entière de l'avoir fait, et une matière grave. Je ne sais pas si c'est très souvent réuni, à part dans le diable, évidemment. Et ces anges, maintenant il y a des gens qui peuvent être possédés, quelle est leur responsabilité? Et ensuite ça peut exister. Il y a des gens qui donnent leurs enfants j'allais dire en charcuterie, excusez-moi, pour avoir des postes importants dans leur vie. Bon, comment on peut avoir un égoïsme pareil? C'est un mystère, le mystère du mal reste un mystère, hein, quand même. Comment nous sommes capables de ça? Mais voilà, nous sommes éblouis par quelque chose. Et Jésus restaure le corps, et ça nous parle aussi des sacrements, qui nous restaurent donc de cette mort, de ce péché qui est mortel en soi. C'est par le péché, à cause du péché, que nous mourons. Ce qui fait dire que la Vierge Marie, dans le dogme, le texte du dogme de l'Assomption, on ne dit pas qu'elle est morte, on dit qu'elle est montée avec son corps et son âme. Est-ce qu'elle était morte? Est-ce qu'elle n'était pas morte? Les orthodoxes disent qu'elle n'est pas morte. Ils parlent de dormition. Dans l'Église catholique, on ne s'est pas prononcé. On n'a pas dit si elle était morte ou pas morte. Si, effectivement, dans la mesure où c'est le péché qui fait mourir, on ne voit pas pourquoi Marie serait morte. D'un autre côté, Jésus est mort. Parce qu'il a porté notre péché. C'est pas lui qui avait. Il a été fait péché. Alors, il faut s'entendre sur ce que ça signifie, bien sûr. Il a porté sur lui le péché. Il a été identifié à quelque chose qui lui était étranger. Voilà, parce qu'aucun homme ne pouvait porter ça devant Dieu. Alors Dieu s'est fait homme pour que ce soit réellement un homme qui porta le péché et qui pût donner qu'il fût absous. C'est extraordinaire, hein, quand même, hein. Dieu n'a pas voulu le faire sans passer par l'homme, comme pour glorifier sa créature et lui dire, tu vois, c'est un des tiens qui t'a sauvé. Alors c'est aussi un des miens, puisque puisqu'il est Dieu et homme, mais c'est quand même bouleversant ça. Voilà, cette résurrection, donc cette ville de Nouna, la ville du poisson. Bon, ça reste bouleversant tout ça. Eh bien, soyons bouleversés. Soyons bouleversés et sachons que Dieu est là pour nous inviter à susciter aussi ces dons qui sont en nous. Peut-être même à les ressusciter, à les ressusciter. Parce que, encore une fois, ils ont pu être rejetés même par nous. Hein. On peut rejeter des dons en se disant non, enfin, je ne vais pas faire ça quand même. Ma famille, c'est pas pensable. Voilà, ouais, voilà.